Audiolib présente La sœur disparue. Les sept sœurs, tome 7, de Lucinda Riley. Traduit de l'anglais par Tiphaine Dusselier et Elisabeth Luc. Lu par Marie Bouvier
et Sophie Lefay.
Le courage, c'est savoir ce qu'il ne faut pas craindre. Platon.
Mary-Kate, vallée de Gippsden, Nouvelle-Zélande, juin 2008. Chapitre 1. Je me souviens exactement de l'endroit où je me trouvais et de ce que je faisais quand j'ai vu mourir mon père. Je me tenais plus ou moins là où je suis en ce moment, penchée par-dessus la véranda en bois qui fait le tour de notre maison. J'observais les vendangeurs qui avançaient le long des rangées de pieds de vigne lourdement chargées de la récolte de cette année. J'étais sur le point de descendre les rejoindre quand, du coin de l'œil, j'ai vu la force de la nature qu'était mon père disparaître soudainement. J'ai d'abord cru qu'il s'était agenouillé pour ramasser une grappe de raisin qui traînait. Il détestait le gaspillage sous toutes ses formes, un trait de caractère qu'il mettait sur le compte de la mentalité presbytérienne de ses parents écossais. Mais ensuite, j'ai vu les vendangeurs des rangées voisines se précipiter vers lui. J'ai parcouru en courant la bonne centaine de mètres qui me séparaient de lui. Quand je l'ai rejoint, quelqu'un avait déjà arraché sa chemise et essayait de le réanimer en lui faisant un massage cardiaque et du bouche à bouche, tandis qu'une autre personne appelait les secours. Il a fallu 20 minutes à l'ambulance pour arriver. Alors qu'on le plaçait sur le brancard, j'ai compris à son teint cireux que plus jamais je n'entendrais le son de sa voix grave et puissante, qui pouvait être si sérieuse, puis se transformer en joyeux éclat de rire l'instant suivant. Alors que les larmes ruisselaient sur mon visage, j'ai embrassé délicatement sa joue à la peau burinée. Je lui ai murmuré que je l'aimais et je lui ai dit au revoir. Lorsque j'y repense, cette expérience a été totalement surréaliste. Le passage d'un être débordant d'énergie à un corps vide et sans vie est une transition inimaginable. Après des mois passés à prétendre que ses douleurs dans la poitrine n'étaient qu'un problème d'indigestion, papa s'était enfin laissé convaincre d'aller chez le médecin. On l'avait informé qu'il avait un taux élevé de cholestérol et qu'il devait suivre un régime strict. Ma mère et moi avions désespéré de le voir continuer à manger ce qu'il voulait et boire une bouteille de rouge de sa production chaque soir au dîner. Par conséquent, lorsque le pire est arrivé, cela n'aurait pas dû nous surprendre. Et pourtant, peut-être que nous avions fini par croire qu'il était indestructible, une illusion entretenue par sa personnalité et sa bonhomie, même si nous n'étions qu'un tas de chair et d'os au bout du compte, comme ma mère l'avait lugubrement fait remarquer. Au moins, il avait vécu comme il l'entendait jusqu'à la fin. Et il avait 73 ans, une réalité que je n'avais jamais bien assimilée étant donné sa force physique et sa joie de vivre. Résultat, j'avais l'impression qu'on m'avait menti. J'avais 22 ans et, même si j'avais toujours su que j'étais arrivée tard dans la vie de mes parents, l'importance de ce détail m'est apparue uniquement à la mort de mon père. Au cours des 5 mois qui ont suivi sa disparition, j'ai éprouvé une violente colère face à cette injustice. Pourquoi n'étais-je pas née plus tôt? Jack, mon grand frère, avait 32 ans. Il avait donc pu profiter de 10 ans de plus avec notre père. Naturellement, ma mère sentait que j'étais en colère, même si je n'en parlais pas. Et ensuite, je me sentais coupable, car ce n'était en aucun cas sa faute. Je l'aimais tant. Nous avions toujours été très proches, et je voyais bien qu'elle souffrait elle aussi. On a fait de notre mieux pour nous réconforter mutuellement et, tant bien que mal, avons surmonté cet obstacle ensemble. Jack a été formidable. Il a passé la plupart de son temps à démêler l'horrible imbroglio administratif qui accompagne toujours un